Rectangle avec le soutien de Sabam for Culture.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Rectangle dans La Vie Rectangulaire, l'émission où on rencontre des artistes pop culture de manière générale. Alors aujourd'hui, je suis très content d'avoir Larissa à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Moi, je t'ai découvert il y a déjà quelques années, deux ans, je pense, avec ce titre qui donne le nom éponyme de ton vinyle.
Oui, Love Em All.
Voilà, et j'étais intrigué par ton univers parce que c'est un univers qu'on va découvrir, on va plus revoir ton parcours, mais qui est assez atypique, quoi. C'est une musique qui se nourrit de beaucoup de choses et en même temps qui est très singulière.
Oui.
Alors, je ne sais pas, comment en es-tu arrivé à ce magma sonore, à cette manière de composer? Quel est ton parcours un petit peu?
Oui, en fait, j'ai commencé en Italie avec la musique reggae.
Du reggae, carrément.
Oui, j'ai commencé en écrivant en fait des morceaux sur des instrumentales reggae. Et un peu à la façon de faire, comme on faisait en Jamaïque, j'avais beaucoup d'amis italiens qui étaient dans le monde de la musique.
Il y a du reggae en Italie?
Oui, énormément. Ouais. En Rome, il y avait genre milliers de sound systems qui se sont faits. Et genre par semaine, il y avait 5 soirées différentes. Oui. Et du coup, c'était cette chose de chanter sur des instrumentales. Et j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire et me balancer avec des amis. Et du coup, c'était très amusant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après quelques années, je suis allée à Amsterdam. Du coup, à Amsterdam, j'ai connu un autre monde et je suis rentrée en contact avec les théâtres physiques et la danse. Et il y avait aussi une autre façon de faire de la musique. Et du coup, il y avait des musiciens qui avaient des instruments, des petites machines à effet qui étaient en train de composer instantanément face à des danseurs. Et du coup, c'était des impros dans lesquels les sons étaient nourris et inspirés par les mouvements et vice-versa. Et du coup, là, j'avais découvert pendant un spectacle une fille qui utilisait un loop station. Et la façon dont elle l'utilisait, c'était vraiment créative. La façon d'utiliser la voix et de créer une musique et de danser dessous, c'était complètement autre chose que chanter un couplet, refrain, etc. Et du coup, ça m'a immédiatement mis beaucoup de curiosité. J'ai acheté directement cette machine que j'ai encore. Et voilà, j'ai commencé à créer. J'avais au début, mon début dans l'électroacoustique et dans l'électronique, c'était avec une V20 Boss, qui c'est un simple vocal processor et une ligne de loop, et une petite enceinte, qui en fait, tu peux aussi l'avoir avec des batteries. Du coup, tu peux les faire même dans la roue.
Retour au centre système.
Oui, j'avais tout mon petit truc comme ça, il y a un micro, ça c'était mon départ. Et du coup, j'étais tellement contente d'être libre, en fait, de pouvoir faire avec ma voix ce que je voulais. Je pouvais créer des bruits qu'après j'ai distorsionné avec les 3 effets que j'avais dans la machine, dans la petite enceinte. Et du coup, ça c'était mon début. Et je voyais ça comme c'était un peu comme dessiner, tu vois. Parce que j'étais là avec mes amis et on était dans les moments présents et il y avait un mouvement et c'est très excitant et très libre. Il n'y avait pas cette chose de je dois tenir un tempo ou je dois dire une certaine chose ou je dois dire un message ou avoir une belle voix, tu vois. C'était pas du tout ça. J'étais libérée un peu de tout. Et après de ça, je suis venue ici à Bruxelles. Et je voulais en fait trouver une école de théâtre physique que je n'ai pas trouvée comme je voulais. Et du coup, je me suis dit, soit c'est ça, soit c'est la musique, mais je voulais faire de la composition. Et ça veut dire, je voulais créer mes propres morceaux et apprendre un peu plus des techniques d'électronique, etc. Et j'avais trouvé une école hyper chère qui parlait des musical production, etc. Mais je n'étais pas sûre que c'était ça. Et du coup, quelqu'un m'a parlé de l'école d'acousmatique à Mons, et je me suis lancée là-dedans pendant 5 ans. J'ai fait les conservatoires que j'ai réussi et tout. Et du coup, enfin, mon projet s'est fait au fur et à mesure. Et c'est un peu un hybride, comme tu dis, parce que ça vient de cette chose du reggae, du coup, il y a, je pense, une sonorité un peu chaude quelque part. Et aussi une simplicité mélodique. C'est quelque chose de très simple, ce que je fais, je pense. Et après, il y a peut-être parfois des sons qui sont très recherchés, découpés, qui ça vient de, plus des études d'acousmatique. Et voilà, du coup, je pense que c'est un peu ça. Et en plus, il y a cette constante des boucles des voix, que c'est la partie entre les deux quand j'étais à Amsterdam. Mais je suis toujours à la recherche et je voudrais essayer de créer un mélange qui soit encore plus particulier, dans lequel j'arrive peut-être à trouver un jour aussi des rythmiques congolaises. Et aussi essayer de pousser plus loin, parce que là j'ai comme l'impression que parfois ça reste divisé en deux, toi. Genre une simplicité mélodique et de l'autre côté des sons un peu bizarres. Et j'aimerais que ça devienne un peu plus complexe, mais facile à écouter.
le disque est un peu une espèce de photographie de ce que pourrait donner, quand tu parles des sound systems jusqu'au théâtre, jusque même l'acoustique, comment on dit ?
Acousmatique.
J'arrive pas bien à le dire. C'est quand même le son qui circule dans un espace précis et avec une expérience, avec une expérience d'écoute. Mm-hmm. C'est difficile de retranscrire ça en disque, mais malgré ça, on arrive à sentir que c'est né de ces improvisations, de ces performances.
C'est difficile de transcrire ça dans les disques, mais j'aimerais faire un effort un peu plus pour ça. Et j'ai eu aussi pas mal de retours des personnes du milieu, d'acousmatique, quelques profs, etc., que pour eux, toi, ils se disent, en fait, c'est très simple ce que j'ai reproduit là. Il y a beaucoup plus à pouvoir montrer et faire... comment ça se dit ? Pas essayer, faire vivre à l'écoute. Parce que justement, pour moi, ce qui m'a changé cette école, à part apprendre des techniques, ben c'est ma façon d'écouter les choses. Et du coup, je pense que l'expérience de l'écoute de la musique normale, entre guillemets, ça s'est fait parfois un peu... genre, c'est un fond sonore de la vie. Et là, l'acousmatique, il te demande une écoute profonde, que c'est presque méditative. Mm-hmm. Tout est tête, tout assoit et tout écoute, point. Et du coup, j'aimerais bien créer ça, mais pas hitlérien comme ça.
Oui, bien sûr, oui.
Plutôt créer une sorte de boule dans laquelle on peut, pour un second, rentrer et s'oublier. Mm-hmm. Arrêter de penser à gauche, à droite, à toutes les choses, mais être dans les moments et être dans l'expérience. Et peut-être que cette sonorité aussi qu'on voit sur la scène, qui d'ailleurs, ce n'est pas l'acousmatique, on ne voit rien. Mais je veux dire, j'emprunterai plutôt à part quelques techniques à l'acousmatique, l'idée de se plonger dans une écoute profonde qui devienne après un concert une expérience. Et voilà, après on ne fera pas ça peut-être tous les jours. Et je suis toujours pour la musique purement d'entretenement, pour bouger les fesses, du twerking, etc. Tout va bien. Mais moi, j'ai cette curiosité-là, je voudrais développer ce genre
de... C'est ton univers, c'est ton parcours aussi, je veux dire. ça s'inscrit dans une ligne... pas contradictoire, mais je veux dire, effectivement, comment faire rentrer dans ton parcours de vie que ta musique représente ça aussi. Comment est-ce que tu en es arrivé à passer de l'Italie aux Pays-Bas, puis la Belgique comme ça c'est en suivant c'est la musique qui a conditionné ça? C'est les rapports humains? C'est une expérience de vie?
Oui, je pense que c'est la vie. En fait, j'étais bien à ce moment-là en Italie. J'avais mon premier boulot et tout. J'avais terminé mes études de différents types d'études. J'avais fait langue et après le bachelier, j'ai pris un autre bachelier en japonais. Toujours pour rajouter un truc en plus dans la soupe. Mais en fait, j'ai travaillé un an full-time dans une boîte et tout. Et en fait, je me sentais mourir dedans. Mmh. Pas pour les gens étaient magnifiques, les travail c'était pas mal du tout, mais en fait je voulais pas faire ça, je voulais suivre mes rêves, et mes rêves c'était toujours dans les spectacles, c'était les théâtres. C'est un peu peut-être parce que j'aime bien être au centre de l'attention, mais j'aime bien raconter quelque chose et peut-être entretenir les gens, créer. Je voudrais faire rêver les gens, en fait. C'est ça mon truc. Parce que c'est ce que je cherche aussi quand je vais dans des concerts ou dans des spectacles. Tu vois, j'aime bien cette chose de... Je sais pas, d'être impressionnée, touchée émotionnellement et qu'après ma fantaisie part. Et du coup, j'aimerais rester dans ce type d'activité. Après, dans la vie, tout peut changer, tu vois. Mais alors, je me suis dit, j'ai besoin de faire un pas très grand pour... en fait, j'avais un copain, j'avais un travail fixe, j'avais toute une série de choses. J'étais jeune, mais pas... Oui, j'étais jeune et j'étais... je dirais, moi, ma mère a commencé à être calme pour se dire, ah, très bien, ma fille, elle est à sa place, elle commence. J'avais un appartement et tout, tranquillement. Du coup, j'avais rien à me plaindre, mais j'étais pas heureuse. Et du coup, je me suis dit, en fait, je dois couper tout ça et je dois partir, je dois faire un coup de tête. Et il y avait une poésie que j'avais faite à l'université, que je ne me rappelle plus le nom, malheureusement, mais qui m'avait tellement touchée. Il parlait, en fait, des gens qui ont critiqué souvent, parce qu'ils ont dit, les fous, il a tout quitté, il est parti. Et en fait, je voulais être cette fou, toi. Dans le sens de dire, en fait, je vais tout balancer par l'air parce que je vais chercher ce que je veux, vraiment. Par contre, après, il faut faire les comptes avec ça, parce que... On a cette idée un peu des films que si En fait, si tu quittes tout et tu pars pour tes rêves ou pour l'homme de ta vie, ou je ne sais pas quoi d'autre, que c'est un truc de ta vie, que c'est très, après, imaginé et pas vraiment vécu. Après, tu te retrouves avec toi une série de surprises. Ce n'est pas comme dans les films qui, après, oui, tout va bien, j'étais acceptée au conservatoire. Première demande que je n'ai fait pas du tout, j'ai reçu pendant 4 ans et demi des non. Je me suis dit, mais j'ai tout quitté pour ces rêves et en fait, tout se balance sur ma gueule comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En fait, j'étais trop. J'avais trop de fantaisies, mais. Mais fin, après, les choses ont commencé. Les moments que j'ai touché, que c'était les plus bas, après, je vais dire, je suis consciente que j'ai toujours eu de la chance. Il y a des gens qui sont vraiment des situations dramatiques, du coup, c'était pas pour moi le cas, mais c'était comment moi, émotionnellement, je me sentais. Que j'avais. C'était tout parti, j'avais plus rien, je connaissais personne là-bas, il faisait froid, c'était horrible. Et fin, tout d'un coup. En contact avec une personne et j'ai créé des amitiés magnifiques. J'ai connu plein d'artistes, j'ai découvert tous ces mondes du théâtre, de la danse et c'était magnifique. Et du coup, après 4 ans et demi, que j'étais aussi, on avait créé un collectif de théâtre danse, on est venu ici à faire des performances à Bruxelles. Et je me disais que peut-être Bruxelles allait être un peu plus ouverte, entre guillemets, d'Amsterdam. À Amsterdam, on vit très bien parce qu'on est très libre, c'est tout, tout propre, tout beau,
oui,
tous
ça
les
oui.
temps. Du coup, tu ne vois pas les gens qui vont mal, quoi. Tu ne vois pas comme Bruxelles, tu ne vois pas la réalité, entre guillemets.
Thank you.
Tu as aussi une passion donc, pour la musique électronique, hein, puisque les appareils électroniques, comme tu parlais de Loop Station ou des samplers, etc. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans, je veux dire, dans ce matériel technologique portatif aussi, puisque avant il fallait des grands engins, maintenant c'est des petits trucs qui se transportent.
Je pense que tout simplement, c'est un peu la magie. Ça, c'est un mot que j'utilise souvent. La magie, pourquoi j'ai dit magie? Parce qu'en fait, avec et un peu toi, ça, en travaillant les sons dans la cosmétique, mais dans la machine, c'est direct, on les voit direct, tu peux transformer les choses. Et du coup, je peux faire un son avec ma voix et avec un delay, je peux créer immédiatement un autre son direct, quoi. Et du coup, c'est cette chose-là qui m'a mis beaucoup de curiosité au début. Après, je ne suis pas trop geek. J'ai appris à faire certaines choses, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui construit les instruments et tout ça. Du coup, oui, je n'ai pas un fétichisme pour les machines. Je ne sais pas si...
Oui, oui. comprends bien.
Si je m'explique. Je suis attirée, mais je me rends compte au fur et à mesure, en plus on connaît ce qu'on veut faire et comment transformer les sons et de quoi on a besoin. En plus, on se rend compte qu'en fait, les machines, c'est très chouette, mais c'est limité. Et du coup, que ça vaudrait le coup de se construire soi-même sa propre machine, peut-être d'abord digitalement et après... pour faire à la machine vraiment ce que tu as envie de faire. Au début, c'est un peu plus la découverte. Quand tu connais rien, tu appuies sur des boutons, tu as un truc qui sort, wow, c'est...
Mais tu es quand même passionné, je vois, quand tu en parles. Mais c'est surtout intéressant, je trouve, quand je t'ai vu en concert, c'est cette utilisation... Donc moi, je t'ai vu une fois, c'était seul en scène, donc tu utilisais tes effets, tes pédales, mm-hmm. en même temps pour créer un univers sonore seul sur scène, quoi.
Oui.
Et donc, c'est aussi l'aspect miniature de ces machines qui rend ça possible. Oui. Enfin, je veux dire, le fait qu'il soit facilement utilisable en concert, parce qu'il faut se retrouver aussi dans le...
Oui. Mais je réfléchis toujours comment est-ce que je peux améliorer ça. Je suis toujours en réflexion. Et pour créer... Parce qu'au début, la machine, ça peut être aussi quelque chose de très visuel. Et après, on se rend compte, on sait qu'on va par période et par vague des modes. Parce qu'au début, tu vois, la chose de faire des boucles des voix, je pense à DabFX, sorry, et Reggie Watts, qui c'était des artistes qui, à moi, ils m'ont touché beaucoup parce qu'ils utilisaient leur voix et des boucles. Et au début, c'était cette chose d'avoir des boucles et faire ça toute seule. Et même si les sons, les résultats de sons, bon, pour eux, c'était très chouette. Mais même si les résultats, en général, sonorement, c'est pas si spécial. C'est quelqu'un qui fait des bruits avec la bouche et il rajoute deux effets, tu vois. Mais c'était la chose de faire ça toute seule, c'est trop cool. Mais après, les temps passent et en fait, on se focalise plus sur les sons. Il y a des machines qui font des choses beaucoup plus puissantes et tu peux enregistrer tes cœurs, et etc. Du coup, on se demande, on se questionne sur la raison d'être d'une certaine machine sur scène. Et moi, j'ai mes questions sur ça. Au début, c'était « Ah oui, j'ai fait ça toute seule, j'ai 3000 machines. Maintenant, je suis en train de virer. J'ai déjà viré ma Chaospad je vais virer bientôt la petite loupe avec laquelle j'ai commencé. J'ai pensé à virer l'autre loupe et essayer de voir comment je pourrais faire ça autrement parce que ça m'intéresse plus les rendus sonores et la fonctionnalité réelle musicale. Parce que parfois, c'est aussi, tu sais, c'est un geste. Toi, la Chaospad, elle était très chouette parce que comment je m'en servais, ça m'est servi pour un effet et je vais avoir une touche avec ma main et ça te donne un mouvement, ça te donne aussi scéniquement quelque chose. Après, si c'est seulement 300 euros des machines pour utiliser un effet.
C'est ça, Chaospad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un transformateur vocal ou d'instrument. Non, mais pour les auditeurs qui ne sont pas férus d'instruments qui a été très utilisé à un moment donné en pop musique. Par exemple, Radiohead utilisait Chaospad. Oui. À peu près sur tous ces voix à l'époque de Kid A, par exemple. Est-ce que toi, tu réfléchis à d'autres expériences de scène que celle d'être in front of people?
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Pour les faire rentrer, justement, dans ce que tu expliquais.
Ouais, mais justement, ça, grâce à la l'acousmatique, j'avais déjà... J'ai même fait mon travail écrit des fins d'année, des cinquièmes années, c'était justement sur l'espace du concert. Parce que dans la musique acousmatique, on parle souvent d'espace, et c'est l'espace à l'intérieur de la musique qu'on apprend à travailler. Il y a toute une série de techniques pour mettre, écrire vraiment l'espace. Mm-hmm. Je sais pas si...
Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire.
Comme on écrit une mélodie, on écrit un espace en musique. Il y a moyen de faire ça. Et du coup, ça veut dire, est-ce que j'ai fait une stéréo là, un mono? Est-ce que c'est un stéréo étroite ou large? Comment je vais faire les changements au fur et à mesure du morceau, etc. Après, il y a l'espace externe, que c'est l'espace dans lequel, justement, il y a l'acousmonium. Et dans lesquels on arrive à faire la bonne expérience des musiques acousmatiques. Ça veut dire que c'est un ensemble des speakers qui sont tout autour du public et on gère les sons avec une console des mélanges qui, dans ces moments-là, n'est pas utilisée comme mélange, mais on utilise les volumes pour passer les sons dans les différentes enceintes. Et il y a toute une technique pour apprendre à faire les mouvements cohérents par rapport aux mouvements écrits dans les morceaux. Et alors, moi, je me questionnais par rapport à l'espace du concert. Du coup, c'est quoi l'espace du concert? C'est l'espace dans lequel les personnes sont accueillies pour faire l'expérience du concert. Et du coup, je me questionne tous les temps sur ça parce que je suis convaincue que l'espace dans lequel on va faire l'expérience, c'est déjà partie de l'expérience. Il peut t'amener en plus en profondeur. Du coup, ça veut dire comment est-ce qu'on pourrait faire les liens avec cet espace et ce qu'on va représenter. c'est un travail créatif en plus. Pour moi, j'aimerais bien faire ça, mais il faut avoir les moyens. Alors, par exemple, quand je parle de ça, dans une petite expérience que j'avais faite il y a quelques années, un ami travaillait dans un centre culturel flamand à Forêt. Et du coup, que je lui parlais toujours de cette chose, oui, j'aimerais en fait que les publics, avant qu'il arrive dans la salle des concerts, se retrouvent comme sortent dans un labyrinthe et il entend la musique, mais il ne voit pas d'où ça arrive. Juste à la fin, il rentre dans la chambre et c'est moi, ils doivent s'asseoir par terre. Du coup, déjà, le fait de faire 5 minutes ou 3 minutes, mm-hmm. à la place de rentrer dans une salle, dire bonjour, prendre un verre et s'asseoir, le fait vraiment de faire déjà une expérience un peu bizarre, ça te met déjà dans une... dans une expérience, tu vois ce que je veux dire, il t'amènera au concert un peu plus ouvert, je pense, ou gêné, ça dépend des personnes, tu vois. Et du coup, là, il m'avait dit, ah, écoute, on fera des concerts, mais vous que tu parlais des labyrinthes, on pensait, on va te mettre dans une salle qui est en bas, il y a tout un long couloir qu'on va faire, on met trois enceintes, c'est très simple, hein, comme idée. Mais enfin, les gens, ils descendaient, ils étaient déjà là, ils se regardaient un peu autour, et juste à la fin, ils rentraient dans cette toute petite chambre, que c'était toute bleue et il y avait des goussins par terre. Et j'ai fait mon concert là. Du coup, à niveau des techniques, je n'ai pas utilisé les choses les plus fines. Il n'y avait que deux haut-parleurs. Il y avait voilà, mon ordinateur et tout. Ce n'était pas énorme à niveau technique, mais c'était une première expérimentation sur cette chose de concevoir l'espace du concert. Et pas seulement la musique, mais l'espace du concert en lien avec ce qui va être présenté. Après, avec ces discours-là, je suis consciente qu'on ne peut pas faire ça pour chaque concert. Et on ne peut pas faire ça dans les cadres dans lesquels, pour exemple, on va présenter 5 artistes différents qui sont bien des 5 mondes différents. Comment est-ce qu'on va créer cet espace? Comment est-ce qu'on amène les gens là-dedans, l'accueil des personnes, si on a 5 choses différentes? Mais ça, c'était une réflexion qui était venue par rapport à la musique acousmatique.
Tornerai, vedrai.
Comment expliquer, je suis beaucoup attirée par les choses invisibles et pour la rêverie en général. Et ça, je pense que ce côté onirique, ça s'entend partout dans ma musique et un peu cette magie étrange. Du coup, mais aussi j'aime bien la beauté et du coup, quelque chose qui ne soit pas effrayante. Quand je parle des mystères et des magies, je ne voudrais pas effrayer les gens.
Toi, c'est pourquoi?
Ah, parce que ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Il y a des choses, des artistes qui décident de prendre un parcours d'art qui te frappe dans les visages. Mm-hmm. Et parce qu'ils veulent communiquer un certain type de choses, ils veulent réveiller un certain type de sensations. Et je me dis, le monde est déjà bien plein des trucs dans the face. Quoi. Et moi, j'ai plus envie d'aller dans un aspect, d'essayer de... Oui, c'est pas de vendre du rêve, parce que j'aime pas cette idée de vendre du rêve, mais c'est l'idée vraiment de faire rêver les personnes, de qu'ils se sentent bien, et aussi il y a je suis vraiment attirée par la beauté. Et quand je parle des beautés, je ne parle pas des modèles, toi, de la télé, un beau corps et tout ça, non, je parle des choses qui font te sentir à l'intérieur cette... Pourquoi est-ce qu'on est vivant, tu sais. Au moins, c'est comme ça que je fais l'expérience de la beauté. C'est quand je vois un paysage de la montagne, comme les Dolomites, quand j'avais vu à 13 ans. J'étais tellement étonnée. Il y a cette chose dans ton estomac qui te fait faire ça. Et quand tu aimes quelqu'un, quand tu vois l'amour entre les gens, de la gentillesse, je ne sais pas si ça se dit gentillesse.
Oui, gentillesse, bienveillance. Ouais.
De la bienveillance, parfois, tu vois quand tu as un peu cette... Quand quelqu'un est vraiment gentil avec toi et tu ne l'attends pas dans une situation de tous les jours, mm-hmm. toi, quelqu'un qui fait quelque chose, pas pour en recevoir quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais faire, mais... Je sais pas, quelqu'un qui est vraiment respectueux et gentil, il t'aide quand en fait tu es dans une situation de la rue et tu t'attends pas du tout que cette personne aurait fait ça. Et tout sans cette petite shiver, comment ça se dit?
Frissonnement.
Oui, un petit frissonnement et tout reste est un peu étonné et content. Mm-hmm. Et c'est un peu cette même sensation quand tu vois quelque chose de tellement beau et ça. Et là, tu as les frissons. Et en fait, ça, c'est un aspect que je trouve qu'on devrait avoir une dose de ça tous les jours, mm-hmm. au moins pour un certain temps pendant la journée. C'est très important parce que c'est ce qui te fait dire, en fait, je suis vivant pour pouvoir être témoigne de cette mm-hmm. beauté. Et il n'y a pas beaucoup de ça, si on, toi, l'art mm-hmm. a cette... pouvoir de les faire, parce qu'avec tous les enchantements, les machines, les techniques, tout peut faire rêver les gens. Et en fait, parfois j'ai l'impression qu'on est vraiment stocké, comment mm-hmm. on se dit, we're stocked.
Et les lettres choses, tu en fais quoi, l'art artistique? Enfin, je veux dire, mm-hmm. Les lettres choses, parce que parfois quand on crée aussi des choses, on crée des choses qui sont l'inverse, c'est-à-dire que ouais. si on le fait de manière honnête, moi ça m'arrive, enfin, je suis aussi artiste, ça m'arrive de dessiner des horreurs ou de faire des choses qui ne sont pas dans cette ouais. qui existent. Après, je suis pas obligé de les rendre accessibles non plus, mais
oui, voilà.
tu en fais quoi? Tu les mets dans quand ça t'arrive, tu les mets dans un placard?
Non, j'ai plein de choses en fait que j'ai fait, que j'ai construit, que j'ai essayé. Après, ce que je montre, ça, c'est que dans les moments, j'ai envie de montrer et après. Bon, c'est pas grave, c'est pas que... Mais je te répète, c'est pas que les gens doivent tous créer comme ça, c'est moi qui j'ai cette envie.
Alors, on t'a vu en live streaming, hein, une expérience de jouer dans une salle vide, filmée par, c'était au Botanique.
Oui.
Avec là, quelque chose d'un peu différent, où tu tentais justement un espace, de travailler un espace sonore de groupe, hein, enfin, je veux dire, avec des musiciens. Comment est-ce que ça s'est passé, cette expérience-là?
Ah oui, c'était très chouette. C'était très court.
C'était une résidence, donc, qui était filmée, c'est ça, hein, c'était
exactement,
ça,
c'est un la résidence, toi... 2 jours et demi de résidence, et après tout film, ce que toi fais. Et justement, le cadre de la résidence, c'est que toi mène pas ton projet normal, mais que tu travailles quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, là, vu que j'ai les conditions pour le faire, ça serait chouette d'expérimenter quelque chose que j'ai jamais eu le temps, la possibilité matérielle de pouvoir faire. En invitant d'autres personnes. Et je me suis dit, comment est-ce que ça serait en ayant des personnes qui amènent leur savoir, parce que moi j'ai fait l'école acousmatique, du coup les conservatoires, mais eux, ils sont des musiciens qui viennent du jazz, en fait, les 3 musiciennes. Et du coup, ils vont amener un autre type de savoir, des créativités, des sonorités complètement différentes. Et je me suis dit, comment est-ce que ça serait donner de l'espace des instruments vivants à des personnes qui sont là et qui sont leur créativité aussi, comment est-ce qu'ils vont réinterpréter, réarranger mes choses. Et la chose que je voudrais continuer, c'est aussi comprendre comment faire, parce que ça prend du temps, hein, comment faire pour faire vraiment mélanger bien les sonorités électroniques avec les instruments live pour créer un dialogue concret, des choses intéressantes au niveau des transitions. Il y a un travail de dingue derrière à faire. Nous, entre jours, on a créé ça. Et je suis très contente. Et après, j'ai toujours envie de découvrir plus et plus parce que je me suis dit, ah, mais alors, comment est-ce que je pourrais faire les chœurs par rapport à ça et ça, quel contrôleur utiliser, quel type de programme, etc. Et après, la danse aussi, parce que j'avais vu Rebecca. Du coup, Rebecca, c'est la danseuse. Et je l'avais vue dans une classe de danse que j'avais fait longtemps. Et après, je l'ai revue grâce à un projet avec une autre chorégraphe. Et donc, je faisais un peu la musique pour ces projets. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais simplement parfois tout récent, énergétiquement, sans trop des raisons, je me suis dit, je la vois vraiment bien faire du mouvement sur ce que je propose musicalement. Et en fait, j'ai adoré.
Et du coup, que ça procure, ça, de voir quelqu'un qui danse sur la musique comme ça, qu'est-ce que ça amène sur scène, je veux dire, comme énergie, ça te rend, enfin, ça, dans ta prestation, quand tu
vois
quelque chose qui se passe, enfin, je ne sais pas, moi.
Oui, à moi, ça, à part que ça, c'est mon monde aussi. J'étais habituée à ça, au fait que toi, j'ai créé de la musique, il y a des danseurs. Et en plus, je pense que c'est une musique qui... Et ils ne dansaient pas sur tous les morceaux, hein, mais il y a des morceaux qui se prêtent vraiment, qui étaient un peu plus libres, c'était pas vraiment de l'impro, mais c'est plus ce genre de choses-là, pas avec des structures très cadrées. Surtout, les premiers, je pense au premier morceau, un morceau où je lis une poésie et tout ça. Ça me rappelle ce que je connais et que j'avais expérimenté à Amsterdam. Et pour moi, c'est un aspect que j'aime bien amener aussi sur scène. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de mes expériences. Et voilà, et je pense que ça... C'est intéressant de mélanger du mouvement, de la musique qui n'est pas structurée, et après de la musique qui est structurée avec des instruments vivants, mais de l'électronique aussi. Et du coup, l'idée, c'était celle d'essayer de créer ces mélanges avec d'autres personnes. Et voilà, c'est ça qu'on a fait en 3 jours.
Et quelques reprises aussi, donc, dont une reprise assez chouette de Mesistar.
Oui,
c'est... Super groupe.
Ouais. Ça, c'est un morceau que j'avais... J'adorais et que c'était un des premiers morceaux que j'avais fait avec ma Loop Station. Ça fait partie en fait de mon deuxième EP, que c'est un EP que j'ai passé.
J'ai vu ça sur Bandcamp, c'est des reprises, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, c'est des reprises surtout et des choses faites avec la Loop. C'était des travaux initiaux. Et j'avais envie, en fait, de les mettre là, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas faits au studio et tout. Du coup, voilà. Oui.
Le futur, alors, parlons-en. Qu'est-ce qui se dessine pour toi? J'imagine que tu vas continuer ton travail en studio, des productions, des concerts, je ne sais pas.
Oui, le futur. D'abord, moi, j'ai toujours la recherche dans ma tête.
C'est ça,
recherche. Oui, recherche et tout. Ça, c'est un truc qui m'accompagne tout le temps. Et déjà, en octobre, je sais que je ferai partie des francophones. Et là, il y a encore quelque chose de nouveau. J'aurai un répertoire un peu plus élargi. Du coup, voilà.
Les nouveautés.
Oui, exactement. Après, je serai en résidence à Montpellier, mais ça, c'est un autre projet qui s'appelle EMO, Electronic Music Electroacoustic Music Orchestra, à Montpellier. Et du coup, on aura un répertoire, on fait une résidence et un concert là-bas.
Donc, on verra prochaine étape à francophone, alors.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir
sur le podcast. Merci à toi, merci.
Et à tout bientôt.
Oui, merci.
Avec le soutien de Sabam for Culture.